tous et à toutes, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 21 août 2015, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. D'abord les titres.
Prestation de serment surprise de Pierre Nkurunziza hier au Burundi.
L'ambassadeur américain à RDC réitère la position de Washington sur un éventuel troisième mandat pour Joseph Kabila. Une interview réalisée par Idriss Fall à Kinshasa.
Report inédit de la visite des médiateurs de la CEDEAO en Guinée-Bissau après la nomination d'un nouveau Premier ministre contesté aussitôt par le PAIGC.
Sanctions de l'ONU hier contre un bureau d'achat de diamants centrafricains et trois leaders miliciens pour leur rôle dans l'instabilité en RCA.
Les États-Unis préoccupés par l'échange de tirs d'artillerie d'hier entre Nord-Coréens et Sud-Coréens.
Démission hier du Premier ministre grec, juste après le versement de 23 milliards d'euros dans le cadre du nouveau plan d'aide à la Grèce. Quelques-uns des titres que nous allons développer, et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Burundi, le président Pierre Nkurunziza a surpris hier en prêtant serment pour un troisième mandat controversé, soit 6 jours avant la date prévue selon la constitution burundaise. Aucun chef d'État étranger n'a assisté à la cérémonie. De Bujumbura, le reportage de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Moi, Pierre Nkurunziza, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale.
Pierre Nkurunziza vient de prêter serment qu'il est le garant des Burundais pour les 5 prochaines années. Un troisième mandat contesté par l'opposition et la communauté internationale. Personne n'était au courant de cette prestation pour des raisons de sécurité, selon les autorités interrogées. Aucune chancellerie occidentale n'était représentée au palais de Kigobe. Seule la ministre sud-africaine de la sécurité publique était invitée. Le président Pierre Nkurunziza a affirmé qu'il va respecter les accords d'Arusha, même si l'opposition politique indique qu'il les a mis au calende grec en briguant le troisième mandat. L'homme qui vient de passer 10 ans au pouvoir au Burundi a annoncé qu'il va former un gouvernement d'union nationale. À cet effet, l'article 129 de la Constitution pourrait être changé. Mais Pierre Nkurunziza a promis également de neutraliser les groupes criminels dans les 2 prochains mois, ainsi que tous ceux qui ont pris les armes pour combattre leur patrie. Et pour la première fois au Burundi, un président de la République a été décoré grand collier des ordres nationaux. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
A signaler que 2 vice-présidents ont été également nommés, Gaston Sindimwo et Joseph Boutoré. Ici à Washington, le département d'État américain a déclaré que cette prestation de serment montre l'intention du parti au pouvoir d'ignorer, et je cite, « les voix de son peuple au profit de son propre agenda politique ». La crise au Burundi, ajoute le département d'État, n'est pas terminée et M. Nkurunziza pourrait avoir du mal à gouverner à cause de la violence croissante et de l'économie en déclin.
Une mission de médiation ouest-africaine prévue en Guinée-Bissau a été suspendue à la suite de la nomination jeudi à Bissau d'un nouveau Premier ministre, a appris l'AFP de sources officielles à Dakar. Le médiateur Olusegun Obasanjo va attendre que la situation se stabilise davantage pour voir dans quelle direction aller, a estimé la présidence sénégalaise. L'ancien président nigérian a été reçu hier par le président Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO. L'ex-ministre Bassirou Dia a été investi Premier ministre de Guinée-Bissau jeudi après-midi, en dépit de la contestation du PAIGC au pouvoir qui réclamait la reconduction de son prédécesseur, Domingos Simões Pereira.
En Mauritanie, le verdict au procès en appel de 3 militants anti-esclavagistes a été rendu hier soir. La peine de 2 ans de prison ferme prononcée en janvier a été confirmée. Le président de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, Biram Ould-Da Ould Abeid, fait partie des condamnés. Maître Bahim Ould Abeti, chef du collectif des avocats des prévenus, dénonce une parodie de justice. Pour lui, il s'agit d'un recul des libertés en Mauritanie. Écoutons-le.
Je vois un double discours hypocrite. D'une part, on décrète l'esclavage crime contre l'humanité. On adopte une loi pour définir les différentes formes d'esclavage pour aggraver la sanction. Et on persécute, on arrête, on condamne les défenseurs des droits de l'homme pour l'éradication définitive de l'esclavage dans notre pays. Je vois vraiment que c'est un discours contradictoire qui ne répond pas à une objectivité, à une volonté réelle d'éradiquer ce phénomène particulièrement grave qui sévit encore dans notre pays. Moi, je suis très inquiet. Tant qu'il y a ce double discours, tant qu'il y a la persécution des militants anti-esclavagistes, je pense qu'il n'y a pas d'évolution. Parce que les textes ne permettent pas d'éradiquer l'esclavage. Il faut d'une part une volonté, deux, il faut soutenir et protéger tout ce qui s'active contre l'esclavage et adopter une réelle politique économique et sociale. Les textes ne suffisent pas pour éradiquer un phénomène aussi grave et aussi enraciné.
C'était Brahim Ebeti, membre du collectif de défense de Biram Old Abeid et défenseur des droits de l'homme.
L'ONU a pris jeudi des sanctions contre un bureau d'achat de diamants centrafricains et trois leaders miliciens pour leur rôle dans l'instabilité en RCA. Il s'agit, selon l'AFP, des anti-Balaka Alfred Yekatom et Habib Soussou et de l'ex-général Seleka Oumar Younous. Le comité des sanctions de l'ONU a ordonné le gel des avoirs de la société Badika et de sa filiale belge Cardiam pour avoir soutenu les groupes armés en République centrafricaine à travers le commerce illégal d'or et de diamants. Ces sanctions font suite à la saisie par les autorités belges en mai 2014 de colis de diamants envoyés aux représentants de Badika Cardiam à Anvers en violation d'une interdiction de 2013 sur le commerce des diamants, a indiqué le comité.
La Russie a indiqué jeudi avoir besoin de temps pour étudier un projet de résolution de l'ONU visant à imposer un embargo sur les armes et des sanctions au Soudan du Sud si son président refuse toujours de signer un accord de paix. Le projet de résolution a été présenté mercredi au Conseil de sécurité par les États-Unis qui espéraient un vote rapide. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a refusé lundi de signer l'accord visant à mettre fin à une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts, demandant un délai supplémentaire de 15 jours. Le chef de la rébellion, Riek Machar, a lui ratifié l'accord.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a placé son armée en état de haute alerte et déclaré un quasi-état de guerre. Aujourd'hui, dans les zones du front, après l'échange de tirs d'artillerie d'hier près de la frontière entre son pays et la Corée du Sud, M. Kim a dit, après une réunion de la commission militaire centrale, que les troupes qui se trouvent sur la frontière doivent être pleinement prêtes au combat à compter de 8h temps universel vendredi. Les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations après l'échange de tirs d'hier. Le porte-parole John Kirby a averti que les actes de provocation de la part des Nord-Coréens ne peuvent qu'exacerber les tensions. Il a exhorté Pyongyang à s'abstenir d'actes et de discours qui menacent la paix et la sécurité régionale. Selon le ministère sud-coréen de la Défense, tout a commencé quand la Corée du Nord a lancé des obus sur des positions militaires sud-coréennes. Séoul a réagi avec des dizaines d'obus. Il n'y a pas eu de victimes.
Nouvelle incertitude politique en Grèce. Le premier ministre grec Alexis Tsipras a démissionné hier, juste après avoir obtenu le versement de 23 milliards d'euros dans le cadre du nouveau plan d'aide à la Grèce. Nicolas Pinault.
Lors d'une allocution télévisée, Alexis Tsipras a affirmé avoir la conscience tranquille, assurant avoir résisté aux pressions et au chantage. Le Premier ministre grec a ensuite formellement présenté sa démission au président de la République, Prokopis Pavlopoulos. Selon son entourage, M. Tsipras souhaiterait que le scrutin se tienne le 20 septembre prochain. Cette annonce qu'on n'attendait pas de sitôt n'est cependant pas une surprise. Après avoir été élu en janvier sur un programme critiquant les deux précédents plans d'aide imposés au pays en 2010 et 2012 pour un montant total de 240 milliards d'euros, M. Tsipras a fini par en signer un troisième à son tour le 13 juillet pour éviter à son pays d'être peut-être expulsé de la zone euro. Lors du vote de ce plan, le 14 août, au Parlement, l'opposition l'a soutenu, mais 43 des 149 députés de Syriza, son parti de la gauche radicale, ne l'ont pas suivi, votant contre ou s'abstenant. Avec cette élection, M. Tsipras espère ainsi pouvoir faire le ménage parmi ses alliés.
En France, Jean-Marie Le Pen, le chef historique de l'extrême droite, a été exclu de son parti, le Front National. Une mise à l'écart qui ponctue le conflit avec sa fille Marine, à qui il avait remis les clés de la formation en 2011. Morgane Guériec.
Jean-Marie Le Pen, mis à la porte du FN, un parti qu'il a cofondé et dirigé pendant près de 40 ans. C'est à l'issue d'une audition de 3 heures à laquelle sa fille n'a pas participé par souci d'impartialité que l'exclusion de Jean-Marie Le Pen a été décidée par les membres du bureau exécutif du Front National. Mais du haut de ses 87 ans, Jean-Marie Le Pen n'abandonne pas si facilement. Il a déjà laissé entendre qu'il n'hésiterait pas à faire de nouveaux appels aux tribunaux. Voilà des mois que le patriarche, condamné plusieurs fois pour ses propos racistes et antisémites, est en conflit avec sa fille, qui dirige le FN. Un héritage controversé dont Marine Le Pen tente de se défaire depuis son arrivée à la tête du parti d'extrême droite.
Et maintenant, la Minute Éco avec Anastasie Toudiech.
Au Congo-Brazzaville, la Sanga se désenclave. Le département de la Sanga, situé dans le nord du pays, sort de son isolement. Selon nos confrères de Jeune Afrique, à partir de fin 2016, il sera possible de rallier Brazzaville par route, mais aussi les frontières centrafricaines et camerounaises. Par ailleurs, pendant que l'aéroport de Wesso se met aux normes internationales, le port de la ville se dote d'un nouveau linéaire de quai de 120 mètres. Et côté téléphonie, la fibre optique est en cours d'installation. Objectif, faire de la ville une plateforme numérique entre le Congo, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique et le Tchad. Le Sénégal produira du pétrole. Le groupe britannique Cairn Energy affirme dans un communiqué avoir obtenu le feu vert des autorités sénégalaises pour son programme d'exploration et de développement d'hydrocarbures. Cairn, qui a découvert du pétrole au large des côtes sénégalaises fin 2014, opère dans le pays à travers sa filiale Capricorn Sénégal Limited. La société prévoit de creuser jusqu'à 6 nouveaux puits et annonce un investissement de 170 millions de dollars entre mi-2015 et mi-2016. Satisfait pour le système Citracotte. Pendant la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, une fuite constante du coton a été observée vers le Burkina Faso et le Mali. Grâce au système d'identification des producteurs et de la traçabilité de la production de coton, acronyme Citracotte, la fuite a été résorbée, selon l'APA. La filière cotonnière ivoirienne n'a enregistré aucun cas de vol de production lors de la campagne 2014-2015 grâce à ce système. Le Citracotte comporte plusieurs avantages, notamment celui d'ouvrir les acteurs du coton à la microfinance.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En basketball, deuxième journée en Tunisie de l'Afro-Basket 2015.
Oui, la Côte d'Ivoire est tombée face au Cap-Vert 76-56 dans le groupe D. Victoire de l'Algérie sur le Zimbabwe 87-67 dans le même groupe. Dans le groupe B, l'Angola a battu le Mozambique 84-72.
Le Sénégal bat le Maroc 77-71. Résultat des matchs du barrage aller de l'Europa, Ligue de football, joué hier soir.
Oui, le Dynamo Minsk de la Bulgarie a battu les Autrichiens de Salzbourg 2-0. Victoire des Roumains d'Astra 3-2 face à AZ Alkmaar des Pays-Bas. Match nul 0-0 entre Kabala d'Azerbaïdjan et le Panathinaikos d'Athènes. Petite victoire de l'Ajax d'Amsterdam contre le Jablonec de la République tchèque, 1-0, 2-0 pour le Standard de Liège face au Norvégien de Molde. Grosse victoire 5-1 des Russes de Krasnodar contre les Finlandais de HJK et match nul 1-0 entre les Moldaves de Milsami et Saint-Étienne. Les Grecs d'Atromitos sont tombés face à Fenerbahçe de Turquie, 1-0. Le Steaua Bucarest a écrasé Rosenborg de la Norvège, 3-0. Défaite de l'Atlético Bilbao, 3-2 face à Žilina. Belle surprise pour Ade d'Autriche qui a battu Dortmund d'Allemagne, 4-3. Et enfin, les Français de Bordeaux ont eu raison de Kairat du Kazakhstan, 1-0.
Tennis, Serena Williams, numéro 1 mondial, s'est facilement qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA Premier de Cincinnati.
Oui, elle a balayé l'Italienne Karine Knapp 6-0, 6-2. Hier jeudi, il n'a fallu que 54 minutes à l'Américaine pour boucler son 8e de finale. Au prochain tour, elle sera opposée à sa compatriote Sloane Stephens ou à la Serbe Ana Ivanovic.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seludia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, Pierre Nkurunziza ne peut plus se prévaloir d'être le président de la République, estime le Forum pour le renforcement de la société civile en réaction à son investiture surprise d'hier pour un troisième mandat, à 6 jours de l'échéance de son dernier mandat selon la Constitution et les accords d'Arusha. Eric Manirakiza a joint dans la sous-région Vital Nishimi Remana, délégué général du Forum.
Nkurunziza ne vient pas de commencer le troisième mandat, mais il vient de terminer son deuxième mandat. Encore qu'il ne mérite pas d'être considéré comme tel, étant donné qu'à la fin de son mandat, il a commis des crimes odieux qui ont emporté la vie de plusieurs centaines de Burundais. Des gens qui continuent à être torturés, exécutés sommairement. Certaines centaines de milliers qui sont contraints à l'exil à cause de cette ambition de rester au pouvoir.
Pour vous, il n'est plus le président du Burundi, mais qui est le président du Burundi en réalité?
La souveraineté appartient au peuple burundais qui doit décider d'aller où venir, qui est l'autorité légitime et qui doit présider aux intérêts du peuple burundais. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas consacrer l'illégalité, on ne peut pas consacrer les crimes pour accéder au pouvoir. Donc, il appartient au peuple burundais de décider qui va diriger son peuple, qui va les représenter et qui va les protéger.
Le président Nkurunziza a mis en garde ceux qui ne reconnaissent pas le troisième mandat ou les institutions issues des dernières élections. Il promet de neutraliser les anti ou les groupes armés dans 2 mois.
Aujourd'hui, Nkurunziza peut prétendre s'égarer à la loi. Il veut même réviser la constitution de la République du Burundi. Tout cela, ce sont des tentatives vaines qui sont contre-productives. Il ne peut pas aujourd'hui continuer à proférer des menaces. Nous l'avons respecté pendant 10 ans parce qu'il était élu par le peuple pour 2 mandats. Aujourd'hui, les forces vives de la nation burundaise vont se coaliser pour trouver une solution à ce problème qui est Nkurunziza.
Les États-Unis ont appelé au dialogue urgent pour trouver une solution politique. Quelle est la concession que vous, meneur de la campagne contre le troisième mandat, vous pouvez faire?
C'est un régime qui veut consacrer la dictature et qui ne mérite autre chose que la poursuite judiciaire par des juridictions internationales indépendantes, à savoir la CPI. Et aujourd'hui, on ne peut pas tolérer que quelqu'un s'amène pour piétiner le consensus d'Arusha.
Nshimi Rimana, membre de la société civile burundaise. En République démocratique du Congo, les États-Unis réitèrent leur appel pour le respect de la Constitution sur la limitation des mandats. Une élection présidentielle est prévue en principe l'année prochaine. Pour le moment, le président Kabila ne s'est pas prononcé sur ses intentions, mais l'opposition l'accuse de vouloir briguer un troisième mandat. Au micro de notre envoyé spécial Idriss Fall, l'ambassadeur américain James Swan.
Effectuer le premier transfert pacifique et démocratique du pouvoir dans l'histoire de ce pays. Il ne faut pas rater cette occasion. C'est une position que nous avons aussi communiquée aux autres pays de la région, en Afrique et partout au monde. L'importance du respect des constitutions, des traditions d'alternance, et nous espérons que ça sera aussi la réalité ici au Congo.
Et si jamais il y a répétition de ce qui vient de se passer au Burundi, qu'est-ce que les États-Unis vont faire?
Bon, encore une fois, je crois que notre position est claire. C'est important de respecter la Constitution et d'assurer que les élections soient organisées selon le calendrier envisagé par la Constitution. Et pour nous, ce n'est pas trop tard, le temps est court, mais avec la bonne volonté et un consensus politique parmi les principaux acteurs, on peut toujours arriver aux élections crédibles et pacifiques fin 2016.
L'autre question, c'est l'instabilité trouver dans l'Est. Il y a les rebelles FDLR, il y a les rebelles ADF Nalou, il y a les groupes Mai Mai. Que faudrait-il faire pour mettre fin à cette insécurité récurrente dans l'Est du Congo?
Il y a déjà plusieurs efforts consacrés à résoudre ce problème qui persiste dans l'Est du Congo depuis 20 ans, même plus de 20 ans. Il y a déjà un cadre diplomatique, l'accord cadre pour la paix signé à Addis Abeba en 2013. Il y a aussi une action diplomatique très robuste de la part des envoyés spéciaux des États-Unis, de l'Union africaine, des Nations unies et autres. Et bien sûr, il y a une mission des Nations unies très robuste ici au Congo, la MONUSCO, qui est prête à collaborer, à aider le gouvernement de la RDC à lutter contre ces groupes armés dans l'Est.
Mais on a vu qu'en fait, cette collaboration ne marche pas toujours, notamment dans la région de Beni, où les populations se sont parfois même révoltées. Parce que, en fait, l'insécurité continue. Que faudrait-il faire?
Bon, je crois que ça souligne vraiment l'importance de reprendre la coopération entre la MONUSCO et les forces armées de la RDC. La population souffre beaucoup depuis 20 ans. C'est l'occasion maintenant de redoubler tous les efforts de lutter contre ces groupes armés qui ont commis des exactions, des atrocités, des abus de la population depuis trop longtemps.
James Swan, ambassadeur américain à Kinshasa. Toujours à Kinshasa, 221 familles expulsées du Congo-Brazzaville vivent dans des conditions précaires. Un an après, elles passent toujours la nuit à la Belle Étoile. Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a rencontré certaines de ces familles.
221 familles dépourvues de tout. Le gouvernement ne leur avait alloué que 18 000 francs congolais, soit plus ou moins 20 dollars américains pour leur relocalisation. Somme jugée insuffisante par François Okitalodi, président des expulsés de Brazzaville.
Avec ces montants-là, nous ne pouvions pas chercher une maison convenable. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez ici. Nous sommes rentrés juste au site d'accueil pour que les autorités, tout en nous remettant les 18 000 francs congolais, pour que nous puissions louer des maisons. Nous sommes expulsés de Brazzaville dans des conditions de brutalité. On a tout perdu, alors on est démunis, ne sachant pas où aller trouver une maison à louer avec les 18 000 francs. Et nous sommes obligés d'y rester jusqu'à présent. On passe la nuit ici à la Belle Étoile. On est dépourvu de moyens.
Ces familles passent presque la nuit à la Belle Étoile. Elles vivent de la mendicité en l'absence de l'aide de l'État et des humanitaires.
On a reçu une fois à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme. Le ministre de la Santé est passer personnellement, me remettre 400 moustiquaires. Alors, vous voyez, même avec 20 bâches, il m'avait remis les lots de 10 bâches. Il était venu me remettre là, à son compte privé avec sa famille. Mais le gouvernement nous a remis seulement 400 moustiquaires à l'occasion de la Journée mondiale du paludisme. Si vous voyez même les enfants qui sont en train de mendier dans les véhicules, ils vivent ici avec la mendicité. Sans mendicité, les gens ne peuvent pas vivre ici.
Il est peu probable que le 231 enfants retrouvent les chemins de l'école au début du mois de septembre prochain. François Okitalodi.
Je voudrais demander un peu à l'UNICEF s'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour leur remettre même les kits et les fournitures scolaires. Parce que j'avais déjà reçu les comités des parents de la commune de Kinshasa. Mais on attend toujours qu'ils puissent y revenir parce qu'ils m'avaient seulement demandé que je puisse faire les listes et attendre leur retour.
Aucune autorité impliquée dans le dossier des familles refoulées de Brazzaville n'a souhaité se prononcer pour l'instant. Ces familles vivent dans un dénuement total. Avoir une maison en location, il faut en moyenne 1000 dollars américains de garantie. En recevant 20 dollars du gouvernement, il est impossible, voire inimaginable, que ces familles trouvent un logement. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
En Centrafrique, le Conseil national de transition, au cours de sa session de jeudi, s'est finalement déclaré favorable au vote des réfugiés, emboîtant ainsi le pas à la Cour constitutionnelle. Jointe à Bangui par Félix Yepasi Zembrou, Léo Mboa Koyasum Dumta, vice-présidente du CNT.
Je pense que c'est la voie de la raison. Il y a eu beaucoup de concertations. La Cour constitutionnelle nous a rappelé à la charte constitutionnelle de transition qui nous demande que tous les Centrafricains sont sur le même pied d'égalité et que nous ne devons pas dénier à un quelconque Centrafricain le droit de vote. Et si nos frères et sœurs se retrouvent à l'extérieur du pays aujourd'hui, c'est pas par leur volonté. Bon, la première fois, quand nous avons dit non, nous avons pensé pousser le gouvernement et le HCR à procéder rapidement au retour de ces réfugiés pour qu'ils puissent voter dans la dignité dans leur pays. Malheureusement, dans les discussions que nous avons eues, il ressort que techniquement, il sera difficile au HCR et au gouvernement d'organiser le retour des réfugiés avant le délai que nous avons très court pour organiser les élections. Et en ce moment-là, il est question que nous revenions à la raison, que nous nous accordons avec la Cour constitutionnelle parce que nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Donc nous nous conformons à la décision de la Cour constitutionnelle pour que nos frères et sœurs puissent voter. Et les questions de transparence pendant ces élections, nous estimons qu'il revient à chaque candidat, à chaque parti politique de prendre des dispositions pour que les inquiétudes soient aplanies.
Oui, justement, madame, ce vote des réfugiés ne va-t-il pas poser quelques problèmes de logistique, voire de modification de chronogramme électoral préconisé par la NE?
Eh bien, si c'est ça le prix à payer pour que aucun Centrafricain ne soit exclu, si c'est le prix à payer pour que nous ayons la paix, nous ne voyons pas d'inconvénients. Pour nous, nous estimons que aujourd'hui, si notre pays a connu des problèmes, c'est parce qu'il y a eu des cas d'exclusion. Et nous ne voulons pas retomber dans ces problèmes-là.
Léa Moa Koyasum Dumta, vice-présidente du CNT.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Au Burkina Faso, la présidente du Parti pour la démocratie et le changement, Saran Sérémé, transfuge du parti de Blaise Compaoré, a déposé sa candidature pour la présidentielle du 11 octobre 2015. Pour l'heure, elle est la seule femme candidate à ce scrutin. Bakassi Kora lui a demandé de nous parler des défis qu'elle doit relever.
D'abord, le challenge de relever la paix, de pouvoir toujours la sauvegarder, de travailler à l'ancrage démocratique à travers une meilleure gouvernance que celle que nous avons connue, de travailler à ce que l'état de droit soit réellement ancré au Burkina Faso, de travailler surtout à la solidarité parce que nous, nous sommes pour la social-démocratie. Aujourd'hui, la démocratie est moins représentative, elle est plutôt participative. Et donc, nous voulons beaucoup œuvrer à ce que cette démocratie participative soit une réalité.
Parlant de représentation, vous savez, il y a eu cette polémique sur le quota de 30% pour le genre, notamment les femmes, surtout sur les listes des législatives. Quelle est votre position là-dessus?
Ben, je pense que je suis celle qui était la présidente du caucus genre et qui a surtout œuvré à faire adopter la loi du quota genre. Je ne peux que soutenir ce combat des femmes à une meilleure représentation dans les postes de décision. La loi n'est pas une panacée. La loi doit faciliter leur représentation, mais elle également, elle doit plus s'engager et se battre pour que la loi puisse être appliquée et qu'au-delà de la loi, nous puissions dépasser la loi.
Alors, votre ancien camarade au sein du CDP, Djibril Bassolé, doit déposer sa candidature. Et donc, qu'est-ce que vous pensez d'une telle candidature et aussi de celle des autres anciens ministres du président Compaoré?
Mais Djibril, c'est un camarade au sein du CDP, mais c'est surtout un ami et un frère. Je pense que le CDP, ni le NAFA, Djibril Bassolé, ne sont exclus de la course. Maintenant, il y a des personnes qui, évidemment, sont exposées à la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Et je pense que ces personnes doivent tout simplement respecter l'esprit et la lettre de nos lois.
Vous parlez de Djibril aussi?
Oui, bien sûr. Je parle de tous ceux qui sont limités par cette loi, tous ceux qui doivent comprendre à un moment donné que la crise a été profonde au Burkina Faso et que ces personnes doivent s'assumer face aux actes qui n'ont pas été posés ou qui ont été posés et que ces personnes puissent comprendre qu'au-delà du pardon du peuple burkinabé, on doit pouvoir faire profil bas parfois pour laisser passer certains outrages qui ont été faits.
Saran Sérémé, présidente du Parti pour la démocratie et le changement, est candidate à la prochaine présidentielle au Burkina Faso. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.